Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. La prise de son est assurée ce soir par Florent Bujon et la réalisation signée Thomas Beau. Ce soir, autour de moi, Corinne Rondeau, Frédéric Bonnet, Florian Guettet pour parler ensemble de âmes sauvages, de symbolisme dans les pays baltes, c'est au musée d'Orsay, artistes et robots de Tingeli à Murakami, c'est au Grand Palais, et puis Gaël Chotard, ce qui me traverse, exposition à voir au Drawing Lab. Aïssa Toundoy est là pour surveiller les fils Twitter et Facebook et donner à entendre vos commentaires sur les sujets du soir, et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des livres « L'histoire à venir » de Patrick Boucheron et François Hartog, édité chez Anacharsis, à l'occasion du festival « Histoire à venir » qui se déroule du 17 au 20 mai à Toulouse. Et nous ouvrons cette dispute avec « Âme sauvage, le symbolisme dans les pays baltes » jusqu'au 15 juillet. Au musée d'Orsay, encore un centenaire, puisqu'en effet les pays baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie sont devenus des États indépendants peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, pardon, donc il y a 100 ans. Et cette époque correspond aussi peut-être à la grande époque du symbolisme balte, plutôt la fin de cette grande époque. L'exposition va la retracer des années 1890 aux années 1920-1930, l'exposition postulant que l'émancipation des consciences que véhicule le symbolisme est indissociable dans les pays baltes de leur accession à l'indépendance. On va voir cet postulat vous sied. C'est en tout cas l'occasion de découvrir pour la plupart des artistes jamais ou très peu exposés en dehors de leur pays. Et Rodolphe Rapetti est le commissaire de cette exposition. Se mettre dans l'ambiance avec cette musique d'un compositeur dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, mais qui est également peintre et qui est lituanien. Non, mais il s'appelle Mykolajus Konstantinas Siurlionis. Je ne suis pas sûr de la prononciation du C de son nom de famille. Frédéric Bonnet va nous conduire à l'intérieur du musée d'Orsay pour découvrir cette exposition. Prenons-lui la main.
Découvrir cette exposition, oui, il faut absolument aller voir, parce que déjà, une première chose, c'est qu'on va y découvrir à peu près tous les artistes. En tout cas, moi, j'en connaissais un tout petit peu, et tous les autres, je n'en avais jamais entendu parler, ni vu quoi que ce soit. Donc déjà, c'est pas si souvent que ça, arrive dans les musées à Paris, s'agissant de... On parle d'art du début du XXe siècle, hein, donc on parle pas d'art contemporain et de création émergente. Où là, il est normal de voir des choses qu'on ne connaît pas. S'agissant de création du début du XXe siècle, c'est quand même beaucoup moins fréquent. Donc, c'est déjà une bonne raison.
Comment on peut expliquer le fait qu'ils soient peu ou quasiment pas sortis de leur pays? Et eux, ils sont pas venus à Paris travailler.
Eux sont venus à Paris et c'est par contre un des écueils, je trouve, de l'exposition, de les présenter un petit peu comme étant hors sol. Oui. Alors que justement, donc de les présenter comme des artistes baltes, sans jamais faire de mention à leur voyage, alors qu'ils ont beaucoup voyagé en Allemagne, en France, certains comme Conrad Magie en Italie, et aussi beaucoup en Europe du Nord, et tout ça évidemment a eu des influences et des répercussions sur leur travail. Mmh. Néanmoins, moi j'ai trouvé cette exposition assez formidable et je m'y suis promené avec un grand plaisir, non dissimulé, parce que j'y ai vu des artistes chez qui la lumière est importante et qui me semblaient eux-mêmes être un petit peu allumés, si je puis dire. Je suis pas sûr que le qualificatif symboliste soit le plus adéquat pour décrire cette scène. Je le trouve assez réducteur, même si effectivement,
pour certains, à certaines époques, forcément, mais il y a quand même une palette beaucoup plus grande d'œuvres dans cette exposition.
Tout à fait. Mais en effet, il y a quand même beaucoup de choses qui ont trait à des vues de l'esprit et à des ambiances lumineuses, on va dire. Moi, ce qui m'a le plus, c'est pas que ça m'a le plus intéressé, mais je trouve que l'exposition est assez bien construite en trois parties. Une première partie sur les mythologies des pays baltes, une seconde partie sur l'âme humaine, on va dire, le traitement du portrait beaucoup, et une dernière partie sur la nature. Et là, moi, j'ai trouvé cette dernière partie là absolument remarquable, et je m'y suis plongé avec délice, parce que on y trouve des artistes qui traitent justement du paysage de manière très très différente les uns des autres.
Alors, on reviendra dans un deuxième temps sur les artistes justement qui vous ont particulièrement intéressé. Premier regard de Florian Guettet à présent sur cette exposition du musée d'Orsay.
Je rejoins Frédéric sur le fait que ces artistes qu'on ne voit pas et l'idée d'avoir comme ça le symbolisme comme quelque chose d'assez fédérateur pour porter le mouvement d'autodétermination de ces peuples-là à ce moment, donc à partir de la fin du 19e jusqu'au début du 20e, puisque c'est vraiment la naissance aussi des États-nations à ce moment-là, et de savoir si l'art a un rôle à jouer en plus des discours intellectuels qui s'organisent à cette occasion-là. Et de savoir voilà comment se placent les artistes. Et effectivement, c'est compliqué pour les artistes parce qu'ils se forment eux-mêmes en général à l'extérieur, à Saint-Pétersbourg beaucoup, à Düsseldorf. Ils voyagent en Scandinavie, et la question qui se pose et que pose l'exposition, c'est de savoir si il y a une identité, on va dire esthétique, artistique singulière, ou si c'est finalement une hybridation de toutes ces influences plus ou moins hégémoniques, en tout cas en gros entre l'Occident et l'Empire russe qui est déclinant puisque il va terminer en 1917. Donc on trouve, j'ai trouvé en tout cas dans cette exposition la marque de cette pluralité-là d'influence qui fait qu'on a pas forcément des esthétiques ou des traits ou des façons de concevoir les peintures qui sont voisines, etc. Il y a quand même une grande diversité de techniques, de couleurs, de sujets, etc. Organisé à travers un parcours qui est somme toute classique, moi j'ai pas trouvé ça hyper intelligent en tout cas, parce que finalement c'est des thématiques qu'on aurait pu retrouver sur beaucoup d'autres pays ou d'autres périodes, quoi. Bon, mais il a le mérite au moins d'être assez pédagogique pour qu'on puisse s'y retrouver, ne pas être perdu. Mais c'est vrai qu'on manque peut-être le côté, la singularité, quoi. Alors, ça donne effectivement sur cette première partie sur les mythes et les folklores qui sont très très présents dans cette histoire-là. Là encore, des mythes qui sont vernaculaires mais empruntés beaucoup aux Scandinaves. On a beaucoup de choses sur les Vikings. On a beaucoup de choses sur des mythes des mythes russes qui sont rapportés beaucoup à la terre, à la mer. Enfin, bon, effectivement, il y a cette imprégnation, cet ancrage, cet enracinement dans les paysages. Et les paysages eux-mêmes sont effectivement des sortes de traductions des états d'âme qui sont présentés dans la deuxième partie. Donc il y a quelque chose dans cette triangulation-là qui est assez logique. Mais peut-être ce qui m'a manqué, c'est effectivement de faire une unité de ces trois pays-là et de pas voir forcément les particularités entre les trois. Par exemple, l'Estonie, qui a beaucoup d'influence, beaucoup d'échanges avec la Finlande, n'a pas du tout le même réseau d'influence que la Lettonie ou la Lituanie, qui elle lorgne un peu plus sur, d'une part, il y a une forme de domination des barons germaniques, et puis effectivement des échanges très très soutenus avec la Russie. Donc on voit pas bien forcément ces distinctions-là à l'intérieur. On a un groupe comme ça, Balte. C'est déjà pas mal, je pense, pour une première approche, mais ça donnera envie de continuer un petit peu plus cette enquête-là sur l'esthétique balte. Néanmoins, de belles rencontres quand même avec certains artistes, moi Nicolas Tric, même beaucoup.
On revient sur vos goûts particuliers dans cette exposition. Là aussi, dans un deuxième temps, on n'a pas encore entendu Corinne Rondeau s'exprimer sur cette exposition consacrée aux pays baltiques. Alors c'est vrai que c'est une entité géographique un peu particulière, et vous l'avez très bien dit, avec une influence tirée vers le nord ou tirée vers l'ouest ou le sud qui donne effectivement une disparité dans les influences.
Oui, oui et non.
Bah, il y a la lumière.
Oui et non, quand même.
La lumière,
oui, ouais.
Quand même.
Bon, il y en a du sud qui vont au nord. Enfin, donc, moi, je crois que l'unité est une... Enfin, elle n'est pas du tout utile. De toute façon, ça ne peut pas être le but de l'exposition, dans la mesure où on est là pour découvrir des peintres qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc déjà, si on ne s'auto-octroie pas ce privilège de ce parcours, de cette initiation d'une peinture, Frédéric a dit illuminée ou allumée, mais effectivement ce sont des barges, parce que justement ça ne rentre pas dans nos canons. Je veux dire, à l'exception des Lettons Rosenthal et Johann Walter, où on retrouve un peu de Gauguin, de Derain, et on retrouve effectivement une fin d'impressionnisme ou effectivement un peu plus de symbolisme ou quoi, les autres, ils sont vraiment empreints de ce qui a été les références des peintres baltes, c'est-à-dire d'un côté Arnold Böcklin, le Suisse allemand, c'est-à-dire avec sa profondeur d'âme, je dirais germanique, et puis de l'autre, Nikolaï Roerich, qui est lui plutôt russe, et là, mais il a beaucoup voyagé. Donc c'est l'âme hallucinée. Il faut voir un seul tableau de Roerich pour se dire que s'il n'a pas fumé la moquette, il a fait de grands voyages dans l'astral. Et donc, quand on a ça, et qu'on sait que, c'est, par exemple, Böcklin était très reconnu à Riga, donc en Lettonie, il n'y a pas de problème pour voir en fait ces deux ancrages très vite dans l'exposition, sans se poser tout à fait au début, qui est qui, Letton, Lituanien, Estonien, etc. Moi, je crois que je m'en fous un peu. J'ai été très surprise par la scénographie qui est toute ouverte, et on a rarement l'occasion de le voir comme ça au musée d'Orsay.
C'est Flavio Bonocelli.
Alors, elle ne m'a pas mis à l'aise du tout, enfin, pas vraiment, mais en même temps, elle a été efficace, puisque l'accrochage, en fait, est fait pour nous dire où est-ce que vous rencontrez de la peinture que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, il y a des lignes, il y a des points, par exemple, il y a une chose qui est très simple, je trouve, dans l'exposition. Dès l'entrée, vous avez un tableau où il y a trois femmes, trois veuves, donc qui relèvent en fait effectivement de toute une tradition animiste de ces pays, particulièrement là pour le coup, c'est Christian Rode, et c'est donc un conte, puisque cette peinture se fonde sur des légendes, des contes. Enfin, il y a quelque chose de comment fonder une nation, puisque c'est la question des états-nations, comment se fonder à travers un conte ou à travers des histoires, c'est-à-dire des mythes. Et pas du tout, je dirais, un nationalisme qui serait empreint d'une autre manière, en tout cas. Là, c'est intéressant. Alors, vous avez ce grand tableau, puis ensuite, sur votre droite, vous avez un autre tableau qui s'appelle l'Arcadie, de Yanis Rosenthal, puis vous avez un autre tableau de Siro Lionius, qui est Rex, et puis de l'autre côté, vous avez un autre tableau qui s'appelle Nekmergitur, de Ruzinski, je ne sais pas le dire. Mais ces quatre grands tableaux font croix, ils ont les trois, enfin, il y a deux des nationalité en présence. Et alors c'est intéressant parce que l'un c'est de l'animisme, l'autre c'est du symbolisme, l'autre c'est une utopie cosmologique et l'autre c'est de l'irréalité absolue. Ce Nekmergitur est un espèce de grand tableau d'un bateau qui relate quelque chose d'un événement politique. On va traverser, la Pologne deviendra autonome, elle va franchir des étapes, on va dire. Et donc ce tableau est monstrueux, il faut aller le voir tellement il est monstrueux. Et d'ailleurs le peintre russe Russischk, je ne sais pas le prononcer, pardon, disait qu'il fallait le voir, il amenait ses camarades le voir au crépuscule avec des bougies. Là, on se dit, éteignez les lumières, on va voir ça. Parce qu'effectivement, il a quelque chose de monstrueux. Et je trouve que là, l'exposition marche assez bien sur des rencontres, des chocs, parce que effectivement, c'est une peinture qu'on ne connaît pas, la manière dont ils ont de le traiter n'est pas comme une manière occidentale. Je crois que pour moi, le peintre, je dirais le plus fou, c'est alors son nom est à rallonge, mais le nom c'est Sir Lionius, qui est
c'est celui qu'on
fou.
Entend dans la télé, la musique tout à
voilà,
l'heure.
Voilà, oui, puisqu'il faisait aussi des partitions, il était compositeur, mais fou furieux. Mais alors, d'une inventivité, d'une...
Il y a une toile qui s'appelle L'été, qui est une toile
alors,
absolument...
Alors, l'été est formidable.
On est tous d'accord,
face au printemps, d'ailleurs.
L'été, si on en garde une, c'est celle-là.
Bon, bah d'accord.
Enfin, moi, je vais en garder
un peu plus. Allez, tiens, description de L'été, Frédéric Bonnet.
C'est à la fin. C'est un petit tableau carré.
Presque carré.
Je suis donc pas venu avec mon maître au musée d'Orsay. Pardonnez-moi, Corinne.
Attendez, j'ai peut-être des problèmes avec ma presbytie.
Donc, un paysage de vallon, il est presque carré, Corinne.
Allez, les dimensions.
48,7 par 46,8, pardon.
En effet, il est rectangulaire. Là, vraiment, je crois que c'est une évidence rare.
C'est une évidence phénoménale. Donc, je reprends ma description quand même. Un petit bout de vallon et puis une ouverture sur le ciel et sur des nuages qui sont bleutés et puis surtout des lignes verticales qui parcourent complètement tout le tableau et qui finalement amènent à renverser la perspective parce que on n'est plus du tout attiré vers le fond du tableau et vers le fond du vallon et donc vers le fond du paysage, ce vers quoi tendrait à aller l'œil normalement, mais l'œil au contraire va aller remonter vers cette masse nuageuse et on arrive presque à un début d'abstraction dans ce tableau. Et ça, c'est une chose que j'ai trouvé très intéressante, qu'on retrouve chez d'autres artistes dans l'exposition, c'est que pour beaucoup, la voie qui est empruntée est aussi un chemin vers l'abstraction. Il y a quand même pas mal d'œuvres qui sont assez ambiguës, notamment toujours le même sur le lys, pardon, hein, on n'y arrivera jamais à prononcer, donc voilà, on est tous dans le même bateau. Dans cette même section du paysage, il y a une série qui s'intitule La création du monde. C'est 13 tableaux totalement cosmiques, mais alors totalement cosmiques. Là, lui aussi, effectivement, je pense qu'il avait fumé la moquette ou quelque chose d'autre, mais enfin, il s'est passé quelque chose. Et là, on bascule véritablement dans des visions oniriques, cosmogoniques et astrales qui deviennent complètement abstraites et se détachent totalement du paysage. Et c'est absolument formidable.
Quelques amours de Florian Guettet dans cette exposition au musée d'Orsay.
Elle se situe plus effectivement dans la dernière section parce que la première, elle est beaucoup empruntée, donc les folklores, les légendes, etc. Elle est beaucoup empruntée aussi aux arts déco, hein, qui sont quand même l'art nouveau, etc., qui est quand même très présent. Donc il y a beaucoup d'ornementalisme. Le deuxième sur l'âme, qui est l'âme tourmentée, hein, quand même, c'est une âme, c'est pas n'importe quelle âme, c'est forcément, il y a une forme de mélancolie, la décadence de la vie, etc. Et qui sont sur des représentations parfois très plaisantes, mais assez, que j'attendais un peu sur l'esprit balte. En revanche, c'est vrai que les paysages m'ont énormément surpris. Il y a beaucoup de forêts avec des arbres très à la verticale. Montre bien cet ancrage dans une terre assez aride et toujours une élévation vers le ciel, etc., qui est beaucoup plus métaphysique. Et effectivement, on a ce glissement vers l'abstraction. Alors, on le voit avec Turlionis. Mais on le voit aussi donc chez d'autres, parce que c'est vrai que c'est peut-être dans cette dernière section où le terme de symbolisme va atteindre un peu ses limites, avec effectivement ces références. On a des entertillements de végétaux à la De Rhin chez Nicolas Tric, on a des rappels fauvistes, pointillistes, comme vous l'avez dit aussi Corinne chez Conrad Magui, mais on a vraiment des sortes d'explosions ou de percées presque psychédéliques avec des sortes de paysages bouillonnants, de lacs. C'est censé être de l'eau, mais on ne sait pas si c'est du magma, de la lave, avec ouais, une vision complètement hallucinée, pour reprendre le terme de Corinne. Donc ça, c'est Nicolas Tric ou Maggie qui ont fait ça. Des couleurs très orangées. Alors en général, la palette est plutôt chaude parce que quand on va vers l'automne, et puis effectivement très très profond, très froide, notamment chez Suryonis quand on va sur l'hiver ou les glaciers. Mais à chaque fois, en tout cas, une lumière très irradiante, quoi, qui vient vraiment nous baigner. Donc cette dernière scène, moi, m'a plus surpris, et je pense que c'est une belle ouverture aussi sur ce que peut poser comme question, en fait, cette esthétique-là, au-delà de l'apport historique des débuts, qui effectivement sont peut-être un peu plus, comme s'il y avait une forme d'émancipation, en fait, à la fin, et que là on dépassait l'idée de se mettre au service d'une identité nationale, et que on commençait à expérimenter de façon. C'est aussi le moment, il me semble que c'est à partir de 1906 qu'on a des expositions en Estonie, etc. C'est le moment aussi où on institutionnalise, et on n'est plus obligé d'aller forcément sur l'extérieur, et on s'organise aussi en groupe de l'intérieur, parce qu'au début, c'est beaucoup des expatriés, les Estoniens qui sont à Varsovie, etc., donc qui sont toujours effectivement plutôt marginalisés, et qui là, maintenant, se réapproprient leur territoire.
À part l'été, Corinne Rondeau, vous prenez quel tableau dans l'exposition ?
Moi, je les prends tous. Non, mais je les prends tous parce que c'est un...
Gourmande !
Oui, je sais. Enfin, cette expo, c'est vraiment passé de... Ce sont tous des peintres, ce sont des fils de paysans et d'artisans modestes, tous. Donc, le retour à la nature, je dirais que, bon, ben, c'est pas étranger. Même s'il y a des problèmes aussi économiques qu'ils rencontrent, ce sont des peintres qui, effectivement, ils vont plutôt à Saint-Pétersbourg, plutôt qu'ailleurs. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on part des Vikings, hein, et qu'on va à des créations de vision. Je veux dire, ça, c'est un parcours en deux décennies. Je trouve ça absolument merveilleux. Je veux dire, vous avez une histoire de la marge de la peinture qui se fait entre les années 1900-1915, 1895-1915, et vous avez vraiment une ouverture sur la peinture. Donc, on a l'impression de se dire, ouais, c'est super parce qu'ils ont fumé la moquette et nous, on aime ça. C'est pas la question vraiment qui est en jeu. C'est-à-dire qu'au musée d'Orsay, on s'octroie la possibilité, à l'occasion d'un anniversaire, un centenaire, de voir ce qui s'est produit, ou quand même il y a des artistes qui se sont... Christian Raud, par exemple, beaucoup de fusains, hanté par la mort. Je veux dire, c'est une exposition sur le crépuscule et sur la lumière. Les titres dans lesquels le mot douleur, soleil revient est systématique. Vous avez des paysages, c'est fantastique. Enfin, c'est vraiment de la science-fiction avant la science-fiction. Donc moi, je retiendrai trois petits tableaux. Ils ont une dominante rouge, les cavaliers qui partent, dont Nicolas Tric et un de Zvidziv Navinicius, voyez-vous. La tombe de Pavlin Vazinskizik. Et non, mais cette triade est merveilleuse. Voilà. Et un tableau de Maggie.
Oui.
À la fin, un paysage. Je n'ai jamais vu un rouge sur un bleu faire autant d'effet. C'est un paysage de Suède.
Dernier mot, Florent Guettet.
Non, juste citer Emilija Grusite, qui est la première femme lettonne, qui présente une sorte de porte des enfers, une sorte de paysage de glacier avec des roches très très sombres, dans lesquelles, là aussi, on peut se perdre avec délectation.
Allez-vous perdre dans cette exposition Âme sauvage, le symbolisme dans les pays baltes ? Bon, le titre, on l'a dit, est assez réducteur par rapport justement au parcours qui est effectué dans l'exposition. C'est jusqu'au 15 juillet au musée d'Orsay. Il y a un catalogue qui est coédité par le musée d'Orsay et la RMN. Il y a un documentaire qui est réalisé par Stéphane Guez, qu'on peut voir jusqu'au 20 juin sur le site d'Arte, et qui sortira ensuite en DVD. Et puis notez aussi qu'aura lieu du 22 au 29 mai un festival baltique avec force concerts, projections de cinéma, rencontres, débats, pour approfondir encore cette exploration d'un coin de notre géographie pas lointaine qu'on connaît très mal. À suivre dans la dispute artistes et robots au Grand Palais, l'exposition de Gaël Chotard à Drawing Lab.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques avec artistes et robots, de Tinguely à Murakami, à l'affiche au Grand Palais à Paris, Laurence Bertrand d'Orléac et Jérôme Neutre étant deux passionnants commissaires d'exposition. On se demandait ce que leur association allait donner sur un sujet assez aride, l'imagination artificielle. Artistes et robots, c'est donc au Grand Palais jusqu'au 9 juillet à Paris. Alors sur un sujet, un titre pareil, on imagine beaucoup de choses qui peuvent être faites, beaucoup de choses peut-être pas très heureuses, d'autres davantage. Résultat ici pour vous autour de cette table et on commence avec Florian Guettet.
Moi, je trouvais que c'était une exposition qui s'aidait à beaucoup de facilité, qui avait une vision assez linéaire de cette histoire-là, et qui, même si elle présente beaucoup de pièces historiques, aura du mal à s'élever au rang des grandes expositions historiques sur cette rencontre entre technologie et art, les immatériaux, Electra, lumière et mouvement, etc. C'est un petit peu cacophonique, hein, y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'images. Il y a quelque chose qui cherche à mettre du spectaculaire pour nous dire que finalement, cette révolution en marche, faut pas en avoir peur. Mais du coup, quitte à ce que la dimension artistique se dissolve un petit peu dans la dimension ludique de l'exposition. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté cité des sciences à la Villette, avec pareil des œuvres qui marchent pas, de toute façon dans les deux cas, etc. Donc comme toujours quand on a une exposition sur la technologie, des gadgets, hein, par exemple ces cartels vidéo filmés avec Jérôme Neutre qui parle un peu à la Stephen Bern de pendant une minute, voilà, que j'ai pas trouvé
c'est
forcément.
Il y a Laurence Bertrand d'Orléans.
Je n'ai vu que Jérôme Neutre. Tant mieux s'ils sont
non,
tous
mais
les deux.
Je le dis parce que je voudrais pas faire porter la faute sur lui.
Non, bien sûr, mais j'ai trouvé
équitable.
Ça un peu accessoire en fait.
La faute, selon vous.
Complètement accessoire. En fait, moi, j'attendais quand même beaucoup de cette expo parce qu'il y a une vraie actualité aujourd'hui, que ça fait quelques années où vraiment il y a deux pensées, on va dire. Il y a une vraie scission entre d'un côté les singularistes, hein, ceux qui pensent que les machines pourront atteindre la singularité de l'homme avec le transhumanisme, etc. Et puis ceux qui pensent que non, il y a un plafond de verre qui ne dépasseront jamais, qui sont plutôt sur une forme de vitalisme. Un peu réac en disant mais finalement l'humanité restera de toute façon toujours supérieure à la machine, etc. Alors que finalement on n'en sait rien, surtout que
il y a
depuis
pas que des réacs qui pensent
depuis
ça.
non mais finalement l'inconscient non mais il faut le dire
la
non,
dominante
je crois vraiment que l'inconscient de ça reste de toute
d'accord.
façon un certain conservatisme, un certain spiritualisme qui n'est absolument pas prouvé expérimentalement. Le problème qu'on a en fait depuis 2013-2015, cette séquence là qui est assez récente, c'est que on a commencé à créer des puces neurosynaptiques et donc on a des ordinateurs qui sont capables d'une autonomie bien plus forte qu'avant, où ils sont capables de reproduire, de reconfigurer eux-mêmes leur code source, ce qui est une avancée énorme parce
bien
que
sûr.
Ça leur donne, avant ils étaient auto-organisés, mais maintenant ils sont vraiment autosuffisants. Et ils sont capables d'apprendre de leurs erreurs, ils sont capables de faire
learning,
des erreurs.
Comme on dit en
exactement.
Bon français, l'apprentissage profond par la machine.
C'est sûr qu'on est encore sur des modèles de conscience assez faibles et pas encore des consciences fortes, mais ça va arriver, il n'y a pas de raison que ça arrive. Maintenant c'est une question de temps, on ne sait pas quand, etc. Bon, cette question, je trouve qu'elle est mal posée parce qu'en fait, on a toujours vu, on voit toujours dans cette exposition les choses d'un seul côté, c'est-à-dire comment le robot peut ressembler à l'homme et pas forcément comment l'homme, lui aussi, il a des automatismes qui pourraient le permettre de le rapprocher, puisque le titre c'est artiste et robot, et qu'on pourrait très bien penser l'articulation à deux sens, et que je trouve qu'on est beaucoup trop sur le mimétisme, ce qui conduit à avoir beaucoup de choses quand même assez déceptives. Donc le parcours est en trois parties. La première, en gros, ce sont les déclinaisons de la machine à créer de Tingly sous différentes formes, etc., jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'arrive pas à produire de la vraie innovation. Pour l'instant, on est beaucoup dans la reproduction d'un style, etc. Alors, ça fait toujours plaisir de voir Paul Newman qui utilise cette machine dans
Madame Croc.
Le titre du film, oui,
En français, c'est Madame Croc, Croque-Marie, non? Français. Mais en anglais, je ne sais plus. Attendez.
Oui, je cherchais le nom en anglais.
La machine qui peint. Donc, en tout cas, selon la musique qu'on lui passe.
Et voilà, qui transforme les sons en, les sons en peinture. Et c'était inspiré, effectivement, de la machine de Tinguely qui était présentée à la Foire de Paris en 59. Mmh. Et puis ensuite, on a Six, voilà, Nicolas Schoeffer. Bon, en ce moment, il y a une rétrospective à Lille. Ce serait peut-être un peu mieux d'aller voir ici. Mais, et puis, on a Nam June Paik. Ce sont les trois grands, voilà, qui ouvrent, en fait, cette exposition et qui sont, effectivement, ceux qui ont lancé ce mouvement-là. Et après, en fait, tout ce qui se décline jusqu'à nos jours, et finalement une sorte de redite de ça, qui est plus ou moins concluante, plus ou moins réussie, avec par exemple une sorte de négligence sur le côté symbolique et intentionnel et volontaire, c'est-à-dire qu'on commence à penser que la création, finalement, c'est un assemblage technique, combinatoire, etc., sans forcément penser que derrière, il y a une intentionnalité, que cette intentionnalité, elle n'existe pas là, qu'on se retrouve face à des créations anonymes, neutres et impersonnelles. Et ça me gêne qu'on mette tout ça sur le même niveau, en disant, regardez, c'est formidable, comme aujourd'hui la création artificielle, ça existe. On est encore très loin, en fait, de cette création, de cette imagination artificielle. Elle arrive. Il y a plein de choses qui voilà, il y a des signes qui nous montrent que. Mais pour l'instant, je trouve que la charrue est mise bien avant les bœufs.
Très bien pour ce premier regard. Et avant de passer la parole à Corinne Rondeau, j'ai pas cité la scénographe qui est Sylvie Jodard. Pour cette exposition, il faut toujours citer les scénographes, bien sûr. Corinne Rondeau.
Oui, alors moi j'étais surprise de rentrer dans cette exposition sur une musique de jazz, parce que c'est le film Tinguely qui est plutôt bien fait d'ailleurs, puisque voilà les trois grands, voilà, Tinguely, on a une vidéo, enfin dans un film, on a, vous l'avez dit, Nicolas Schoeffer, et puis Nam June Paik. Alors vraiment, ça reproduit en plus la question du golem dont l'exposition a eu lieu, il y a eu une exposition l'année dernière au MAJ. Et c'est vraiment aussi la question de la création et la créature, c'est-à-dire il y a toujours le bon et le mal qui se conjoint. Je crois que c'est vaguement abordé, puisqu'en fait l'exposition, je suis d'accord avec Florian sur la dimension très mimétique, c'est-à-dire le rapport effectivement d'une ressemblance opérante. Voilà. Après, effectivement, on attend, parce que effectivement c'est l'actualité, effectivement parce qu'on peut redouter d'une certaine avancée trop grande d'un coup de ces processus synaptiques de puces, mais moi c'est vrai que au départ, si vous voulez, j'ai vu cette grande ambition finalement de la création, de la créature à travers divers moments. Quand on a Xenakis par exemple, c'est formidable. Je veux dire, comment la musique peut être d'abord une forme et comment ça peut se combiner. Qu'on retrouve Vera Molnar, j'ai trouvé ça aussi intéressant, dans la mesure où Vera Molnar, quand on s'y penche un peu, c'est aussi à se tordre de rire autant que c'est logique et que c'est fait la première femme à avoir utilisé l'ordinateur pour justement créer des formes. Puisque vous parliez de femmes, moi aussi j'en parle. Donc on a des choses qui peuvent être extrêmement plaisantes, et en même temps vous avez effectivement, je dirais que l'envolée se fera sur l'art génératif, donc on aura Couchot et Tréchet, Bray, ouais, qui vont faire les pissenlits, donc les années 90. Mais c'est vrai que l'exposition s'arrête aux années 90, on va dire, pour moi, c'est-à-dire le début de l'art génératif, qu'on va retrouver à l'étage avec le conseiller artistique de l'exposition, Miguel Chevalier, c'est-à-dire dès cette phrase que Couchot avait dite, finalement, le spectateur fait partie de l'image. Bon, moi, je trouve ça un peu triste, si vous voulez, parce que effectivement, ce côté participatif existe déjà bien avant dans l'art, et que l'idée du un nouveau matériau, qui soit électronique ou ce que vous voudrez, ou numérique, ne change pas grand-chose finalement à la question de l'aléatoire. Sur l'aléatoire, le hasard, ça existe aussi chez Cage, vous voyez, et en jetant des dés. Oui. Donc, quand on monte à l'étage, on se dit bon, so what? Et effectivement, comme
quand on parle, on passe par les cours d'anglais, donc.
Ouais, j'essaie.
Quand on monte
en fait,
à l'étage.
Ouais.
Et alors,
après, je ferai du russe. Et comme en fait, j'ai toujours la phrase d'Octavio Paz qui est: regardez, c'est pas une expérience neutre, c'est une complicité. La question, c'est d'avoir, à un moment donné, peut-être une complicité. Sauf qu'au deuxième étage, moi, j'ai fermé les tuyaux, quoi. Les yeux. Et j'ai été dans un épuisement, vraiment, de vouloir absolument démontrer quelque chose. Parce que l'exposition a effectivement l'ambition, et elle a raison, puisque les gens Ils prennent beaucoup de plaisir. Les gens sont dans un espace de jeu. Le mot de ludique est parfaitement adapté. Mmh. J'ai l'impression que l'œil que les commissaires portent sur cet art, parce que bon, moi je voudrais un peu sauver Laurence Bertrand d'Orléans parce que je sais qu'elle a travaillé sur la guerre ou la période 40-44, que la question de la technique est une question extrêmement importante sur le 20e siècle puisqu'il est le siècle de la destruction, que la technique c'est le siècle du 19e, 20e siècle, c'est quand même des siècles de la technique. Donc à un moment donné, quand une commissaire, une historienne de l'art se pose cette question de l'intelligence artificielle à travers son regard sur l'histoire elle-même et de la destruction, voilà, je crois que c'est aussi quelqu'un qui veut peut-être nous tendre la main sur une réconciliation sur le versant qui, moi, effectivement, ne me convainc pas tout à fait ludique, mais qui est une manière aussi de se rassurer sur passer de la toile à l'écran, passer du mimétisme. Mais y aura-t-il une métisse, c'est-à-dire une ruse de la machine? Évidemment, l'exposition pour moi, c'est une exposition qui joue sur la magie. Mmh. C'est-à-dire, le grand mythe de la modernité, c'est l'illusionnisme, avec Méliès. Ouais. Mais cette exposition, elle joue ce côté-là. Et là, je retrouve finalement la tendance début 20e, là, qui se joue. Mais, si vous voulez, j'avais une attente sur aujourd'hui. Oui. Et cette attente, quand je finis sur Orlan, pardon encore une fois, mais sur, comment il s'appelle le groupe là, les Français avec le casque là,
Daft Punk.
Les Daft Punk, je me dis, oui, c'est vrai, c'est la maison d'E.T. quoi. Mais juste début 90.
Mais peut-être qu'on attendait effectivement avec Laurence Bertrand d'Orléac au commissariat, parce qu'on l'estime beaucoup et qu'on sait ses qualités intellectuelles évidentes, quelque chose peut-être d'autre et une complexité qui arriverait. J'ai un peu le même sentiment, mais on n'a pas encore entendu Frédéric Bonnet.
Je vais dans le même sens que mes camarades. Moi, je trouve que c'est une exposition qui manque singulièrement de capacité imaginative et exploratoire. Ça fait bip bip. On s'attendait à ce que ça fasse bip bip, mais ça va pas trop au-delà du bip bip. Et moi, j'aurais aimé que justement on aille au-delà de la question évidente qui se pose d'entrée, qui est de savoir si une machine ou un robot peuvent créer une œuvre d'art, mais dont on a tout de suite la réponse, parce que ce qui est donné à voir, c'est la réponse c'est non, une machine ou un robot finalement peuvent pas créer une œuvre d'art, parce que il y a toujours un artiste qui en est le maître d'œuvre et qui acceptera ou pas le résultat. Donc voilà, fermez le banc, rompez. Et on ne va pas au-delà de cette problématique-là. Et il y a en fait très très peu de choses qui vous surprennent dans les protocoles. Moi, une des œuvres, au-delà des... Évidemment, il y a des belles pièces à voir, hein, Nicolas Chauffeur, je suis entièrement d'accord, c'est absolument magnifique.
Xenakis,
c'est super. Vera Molnar, tout ce que vous avez cité, Corinne, je suis entièrement d'accord. Finalement, moi, la chose qui m'a peut-être le plus intéressé ce cadre-là et qui pose une question que j'aurais voulu, que j'aurais aimé voir être développée dans l'exposition, c'est les photos de Joan Foncuberta. Qui a fait une série de photos qui s'intitule Orogenèse. Il a utilisé un logiciel de simulation de paysage en 3D pour les cartes. Donc vous rentrez la carte dans le logiciel, ça vous sort le paysage. Sauf que lui, il a pas mis des cartes, mais il a mis des tableaux de peintres classiques, de Goya, de Gainsborough, de Cézanne, de Manet, et ça en sort des paysages de montagnes, de mer, de je sais pas quoi.
On est arrêté devant ces œuvres là
complètement
quand même. Hein.
Et ça, c'est absolument bluffant, parce que là, la machine est dotée de véritables capacités d'invention. Et qu'en plus de ça, l'artiste en a détourné l'usage pour lequel elle est faite. Elle est dotée de capacités d'invention et d'imagination, et elle nous emmène à brouiller les frontières entre le réel et le virtuel. Et donc j'ai trouvé cette série stupéfiante et complètement bluffante, et j'aurais aimé avoir un peu plus d'œuvres de cette tenue-là, parce que après, au-delà donc des grandes œuvres qu'on a mentionnées, on n'échappe pas à toutes les niaiseries genre l'épicenlit qui s'agite sur le mur et puis vous allez souffler dans une buse et ploup, l'épicenlit s'envole. Le selfie avec les mouches qui sur l'écran, vous avez des mouches qui recomposent votre image. Puis dès que vous faites un mouvement, pouf, les mouches s'envolent. Voilà, bon, et alors des... C'est des niaiseries dont on se passerait volontiers. La sculpture de Crespin, d'Elias Crespin dans l'escalier, qui est absolument pitoyable, avec un module qui s'élève, là, et d'autant plus emphatique qu'il y a une pièce musicale derrière qui n'est pas en plus celle de Crespin, mais alors qui rend le truc encore plus lourd et pesant que ce qu'il est, alors que c'est censé être léger, ça devient d'une lourdeur effarante. Donc voilà, je pense que c'est un rendez-vous manqué tout de même.
Mais ça reprend en effet ce que disait Corinne Rondeau tout à l'heure, c'est comme le cinéma commence dans les fêtes foraines, c'est quand même cette dimension-là de rassurez-vous quand même, on est là, on va bien s'amuser ensemble, qui est évidemment un peu court, ça fait partie hein, évidemment de l'exposition, mais on en attendait plus. Corinne Rondeau.
Oui, mais bon, c'est aussi la politique du Grand Palais, c'est-à-dire grand public, je veux dire, là-dessus elle est réussie l'exposition, mais moi j'attire quand même mais encore le...
On sort avec aucune question même.
Comment ?
On sort avec aucune question.
Ah, ça, je suis bien d'accord. C'est quand même pourtant, ça, le problème. L'exposition était une série de questions. Ben qu'est-ce qu'une œuvre ? Que peut faire un robot ?
C'est tout le problème, quand même. On peut s'amuser et se poser des questions.
Oui, mais je suis d'accord, mais quand même... je veux dire, l'expo, c'est artiste et robot. Au robot, c'est quand même un mot qui vient du théâtre. Robota du tchèque, qui veut dire serf et qui veut dire aussi travailleur. C'est-à-dire qu'on est du côté, là encore, l'utilisation. Je ne peux pas imaginer que les commissaires, en utilisant robot, qui est un mot archaïque pour nous, n'aient pas voulu déjà jouer la carte illusionnisme. Moi, je ne peux pas m'enlever ça. Parce que j'aime beaucoup Laurence Bertrand d'Orléac.
Oui, moi aussi. Mais alors, et aussi, bon, ça, on peut le voir ailleurs. Il y a le film de Koji Fukada, que moi j'avais adoré, Sayonara, qui est un long métrage qui est sorti en salle, qui est projeté là, bon, dans un écran. C'est un long métrage qui fait 2 heures. Je ne vois pas qui va regarder ça quand même.
Moi, j'ai vu le film aussi, que j'avais aussi beaucoup aimé et je n'ai pas compris pourquoi il y avait cette présence-là.
Bon, parce que, oui, il y a
un androïde qui joue.
Parce que ça fait diptyque avec notre enfant.
Oui, d'accord,
le scénario
était fait par. On ne met pas un long métrage de 112 minutes.
Vous savez, c'est pas la première exposition, il y aura un film en l'intégralité.
Je sais bien, mais on peut espérer que ça ne se...
Écoutez, c'est la foire du trône, donc grosso modo...
C'est un peu ça. Voilà. Bon, on garde du temps pour Gaël Chautard, vous voulez dire encore un tout petit mot, Florian Guetté ?
Non, juste dire que je pense que l'expo était réussie, et peut-être qu'elle annonce ça à la fin, quand on arrêtera de parler d'intelligence artificielle, et qu'on parlera un peu plus de bêtises artificielles, et je pense que là, on a la matière pour, quoi.
Artistes et robots, c'est jusqu'au 9 juillet au Grand Palais. Il y a un catalogue qui est édité par les éditions RMN Grand Palais.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Troisième exposition au sommaire de cette dispute, celle de Gaël Chautard au Drawing Lab à Paris, intitulé « Ce qui me traverse » et dont la commissaire est Valentine Meyer.
Il neige. C'est quoi de l'eau de neige ? Sauras-tu jamais ce qui me traverse, ce qui me bouleverse et qui m'envahit? Sauras-tu jamais ce qui me transperce, ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli? Ce que dit ainsi le profond langage, se parler muet de sens animaux, sans bouche et sans yeux, miroir, sans image, se frémir d'aimer qui n'a pas de mots. Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent d'une proie entre eux un instant tenu? Sauras-tu jamais ce que leur silence un éclair aura connu? Donne-moi tes mains que mon cœur s'y forme, s'y taise le monde au moins un moment. Donne-moi tes mains que mon âme y dorme éternellement. C'est beau, hein? Alors,
même les expositions ont leur aguicheur, leur teaser, c'est le cas pour cette exposition de Gaël Chautard au Drawing Lab. Florian Guetté va commencer à nous en parler.
Eh bien non, j'étais content de voir Gaël Chautard parce que c'est une artiste qui se fait en général discrète, qu'on voit beaucoup chez Claudine Papillon, mais qui a un peu du mal qu'on voit un peu moins dans les institutions. Donc je suis content que là il y ait Drawing Lab qui lui ait consacré une exposition. Alors, c'est une proposition très serrée. un peu au seuil du perceptible. C'est une impression vraiment de vide qui domine dans cette salle quand on arrive. On essaye vraiment de l'embrasser. Elle est un peu pensée, cette expo, comme, comme sur un fil, avec ses fragilités, avec quelque chose d'assez, d'assez tenu, d'assez tremblant parfois. Il y a toujours le risque de la chute aussi, parce qu'on a l'impression que c'est à peine, que les œuvres sont à peine tout, accrochées au mur. Et cette salle du Drawing Lab, qui est en, en sous-sol, en fait, devient une sorte d'espace souterrain, assez, assez racinien, radical, hein, qui, voilà, où il y a ces racines qui viennent se greffer. Le travail de Gaël Chotard et tout, voilà, d'abord un travail, on va dire, de sculpture, alors que c'est un lieu qui est normalement fait pour le dessin. C'est des sculptures assez miniatures, réticulaires, capillaires, qui voilà, déploient une forme de trame à travers l'espace. Souvent, elles sont posées en haut des murs. Alors ça, c'est aussi un jeu de hauteur et de taille qui est récurrent chez Gaël Chotard, qui elle-même est pas très grande et qu'on, du coup, qui nous oblige aussi à voir les choses d'en bas par elle. C'est un travail très très minutieux, donc organisé à partir de fils métalliques, or d'inox, de cuivre étamé, de cordes de piano. Pour certains, qu'elle tricote elle-même avec des toutes petites aiguilles auxquelles elle va ajouter des gaines métalliques de différents diamètres, des pointes tubulaires qui vont devenir elles-mêmes ses crayons, sa ligne. Et finalement, c'est ça c'est, qui est intéressant dans ce travail et dans, d'être présenté dans ce cadre-là, c'est ce passage du graphique au plastique, qui est finalement voilà, une sorte de récurrence dans son œuvre, mais qui là sort avec beaucoup plus de force et de pertinence. Et tout, en fait, les fils, ces trames viennent composer en fait des dessins qui se projettent sur le mur avec la lumière et qui vont créer des dégradés d'ombre ou alors des dessins muraux. Il y a des scintillements sur les grilles de surface puisque évidemment ce sont des matières métalliques. Il y a la profondeur des noirs. Il y a une forme de légèreté dans la suspension. Donc ce qui me traverse, hein, qu'on a entendu là, qui est un tiré de Vert d'Aragon, c'est à la fois cette métaphore spatiale de ce qui est projeté dans la surface, ce qui traverse l'espace, et puis une intériorité très affective aussi puisque c'est un travail très sentimental, un peu ambigu d'ailleurs sur les sentiments. Ça peut être très serein, très joyeux, et puis en même temps ça peut être très très profond, un peu plus inquiétant, un peu plus angoissé.
Ah oui, j'ai pas senti serein du tout, moi, ce travail.
Ah, c'est moi aussi, enfin ouais.
Plus comme... inquiétant, plus alors moi, dérangé.
J'arrive pas à savoir si c'est des œuvres qui sont en train, voilà, un corps qui est en train de prendre forme, ou si au contraire un corps lambeau, en déchéance, en dégradation. Et puis on a un peu finalement toujours ces deux aspects là, donc ça dépend avec quel esprit vous y allez, avec quelle humeur. Mais je pense qu'il y a vraiment toujours ces doux l'entrée sur ces sculptures filaires et ce théâtre d'ombre qui se déploie autour.
Alors on va voir quel effet cela a produit sur Corinne Rondeau d'abord, puis Frédéric Bonnet ensuite. Corinne.
J'imaginais bien que ça plairait à Florian. Moi, je trouve qu'en photo, c'est super. C'est-à-dire quand on prend des photos... quand on le prend en photo, on voit que ça fait dessin. Mais je dois dire que je n'ai pas du tout eu l'humeur de Florian. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça... Alors, je suis pour l'art pauvre, mais il y a un moment donné où le pauvre... que voulez-vous ? Je marche pas. Je marche pas du tout. J'ai trouvé que l'éclairage était mauvais. C'est-à-dire que le travail sur, justement, la projection de ces formes qui peuvent être une chose, puis une autre...
Le lieu n'est pas facile.
Non, mais le lieu n'est pas facile, mais je veux dire, quand on n'a que ça, c'est-à-dire d'une grande fragilité, d'une grande... question de l'équilibrisme pour, justement, mettre ces volumes qui se donnent comme des dessins par des projections de lumière. Je veux dire, à un moment donné, effectivement, vous avez une porte, une lumière, une deuxième porte. Je veux dire, ça ne va pas. Et puis, dans la pièce qui est réservée, justement, à jouer que sur la lumière, je dis c'est pas possible. Je veux dire, déjà il faudrait nettoyer le sol parce qu'il y avait de la poussière, à moins que ce soit fait exprès. Et les dessins, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. Alors voilà, c'est très synaptique, d'où peut-être votre intérêt, Florian, pour ces dessins. Moi je les ai trouvés pas assez denses, c'est-à-dire que il y a quelque chose, un travail qui est, je veux dire, c'est fin. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui travaille par-dessus la jambe. Hein, je veux dire, c'est un travail qui est sérieux. Mais bon, moi, j'ai pas accroché, je pense, à cause de l'éclairage, à cause de l'accrochage. Et que c'est vrai que quand je les ai prises en photo pour garder mémoire de cette fragilité, d'un coup, le graphisme est beaucoup plus sorti parce que justement, évidemment, on voit pas les mêmes choses dans l'espace que sur un plan, évidemment. Et pour en ce qui concerne la salle des dessins, j'ai trouvé que il y avait quelque chose de trop appliqué sur le petit le labeur du dessin au sens du travail, hein, au sens noble du terme, que le travail était, je dirais, trop trop pointilleux et qu'à un moment donné, son dessin, il était ni assez tendu, ni assez lâche. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai toujours été dans cette exposition à me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, le teaser m'a peut-être assassiné.
Oui, la lecture. Frédéric Bonnet, quel sentiment avez-vous eu au Drawing Lab ?
Oui, je partage le sentiment de Corinne. L'éclairage, alors à 300%, qui est absolument dramatique et qui dessert totalement un accrochage qui est aussi un petit peu faible. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir évidemment de mettre en relation le dessin et cette sculpture très fine, très fragile et tendue. C'est une bonne idée de sortir le dessin en 3D quelque part, mais il y a un problème dans la matérialisation qui a quelque chose d'inabouti et d'irrésolu parce que autant dans le dessin, effectivement je trouve qu'il manque de densité, comme vous avez dit Corinne, mais quand même j'y retrouve des jeux de textures, j'y retrouve des jeux de densité, des brûlures, des découpages, il y a quelque chose d'un petit peu viscéral. Par contre, quand on passe dans le registre de la sculpture, la fragilité des textures métalliques employées donne un aspect brouillon à ces formes, beaucoup plus brouillon que ne le sont les dessins. Et au final, je trouve que ça pose un problème de crédibilité de ces formes qui n'ont presque pas de consistance en fait. Et je trouve que c'est un travail qui est trop appliqué et qui manque d'aspérité quand on convoque l'organicité et l'intime et l'intériorité. Du coup, ça veut être râpeux, mais ça l'est pas vraiment. Et c'est ça le problème. Il manque quelque chose. Oui, je disais qu'il y a quelque chose d'irrésolu et d'inabouti. Je crois que c'est vraiment ça. Il manque quelque chose. Oui, des aspérités, quelque chose de râpeux pour que ça soit réellement convaincant et que ça vous accroche, que ça vous attrape.
Bon, j'ai un peu ressenti les mêmes choses comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Donc, parole à la défense avec Florian Guettet pour finir cette séquence.
Son indétermination est aussi sa force. C'est-à-dire que, effectivement, elle va chercher dans le biomorphique. Effectivement, il y a tout un registre organique, mais elle va aussi chercher dans le macro. C'est-à-dire qu'elle va pas que dans le microscopie, elle va aussi dans le macro. Elle va aussi dans les comelles. C'est-à-dire, il y a un physicien qui est invité pour le catalogue à commettre un texte. Et puis, donc, on est vraiment dans cette indécision-là. Il y a quand même quelque chose d'un peu plus corrosif dans l'utilisation qu'elle fait aujourd'hui du papier déchiré, qui est effectivement quelque chose d'un peu plus un peu moins appliqué que ce qu'on avait l'habitude de voir chez elle. Et puis les brûlures, il y a aussi un dessin qui est au pyrograveur. Et puis même dans les dessins, il y a quand même effectivement quelque chose de très lâche dans les séries, on va dire les plus récentes, qui sont des taches d'encre qui se répandent, et à partir de là finalement le dessin a sa vie propre. Et puis à côté, il y a les séries un peu plus anciennes où on travaille à partir de blanc, de manque, et tout est dessiné autour, et là effectivement c'est plus tenu. Donc il y a aussi ce double geste qui explique aussi cette indécision-là. Moi, cette indécision, elle m'ouvre une marge d'indétermination dans laquelle je me plonge, quoi.
Corinne Rondeau ?
Non, mais j'entends le travail. On parle de l'expo.
Oui, oui, oui.
Bien, si vous dites que l'éclairage, il est formidable...
Ah non, je n'ai pas dit ça.
Bon, ben voilà, vous ne l'avez pas dit. Okay. Mais sinon, écoutez, sauras-tu jamais ce qui me traverse ?
Alors, on a deux, trois idées. Enfin, moi, j'ai deux, trois idées vous concernant, Corinne Rondeau, mais c'est pas du tout le sujet de cette dispute qui va se conclure sur ces mots. Allez, donnez-nous encore envie un petit peu, Florian Guettet.
Moi, je trouve qu'il y a quand même de la rondeur, il y a quelque chose de l'ordre de la minutie, il y a quelque chose de l'ordre de
minutie, oui, rondeur, j'ai du mal à voir, mais j'ai quand même beaucoup d'aspérité quand même. Ça...
Oui, mais la minutie,
non,
ça fait pas
les cordes de piano, ils ont forcément une courbe, ils ont vraiment un truc comme ça.
D'accord,
qui
enfin, moi aussi, vous savez, quand je fais des lacets, j'ai une courbe au lacet.
Mais on n'a qu'à vous exposer au drawing là.
Mais vous aussi, vous avez un piercing, on va l'exposer aussi.
Oh, ça y est, c'est reparti.
Non, mais du cosmos à l'intersynaptique, je trouve qu'il y a des creux dans lesquels j'ai envie de
vivre l'intelligence artificielle.
Et j'ai vécu un vrai moment de contemplation et j'invite tout le monde à le partager.
Ben voilà, c'est ça qui est important, de finir sur cette parole positive concernant l'exposition « Ceux qui me traversent » Gaël Chautard. C'est jusqu'au 16 juin au Drawing Lab qui se trouve 17 rue de Richelieu dans le 1er arrondissement de Paris. Et puis il y a un petit catalogue édité pour l'occasion. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, Camille André, après avoir live tweeté, notamment avoir mis sur le Twitter de la Dispute FC, une reproduction de l'été dont nous avons tous parlé. C'est l'heure du jeu de la dispute. D'abord la question du jeu d'hier soir et sa réponse, Camille.
Alors on se demandait hier ce que voulait dire le mot makala en swahili, et il signifie charbon.
Et ce soir, une fois que nous avons donc cette réponse, la question du soir, il faut que je la retrouve. Oui, c'est ça. Enfin non, à gagner ce soir des livres L'Histoire à venir de Patrick Boucheron et François Hartog, édition Anacharsis. C'est l'occasion du festival Histoire à venir qui aura lieu à partir de demain et jusqu'au 20 mai à Toulouse. Quelle est la question, Camille ?
Eh bien, lors du festival Histoire à venir, la pièce Finir en beauté sera présentée. Par qui fut-elle créée ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Demain, 19h, dispute consacrée à la littérature. Nous serons en compagnie de Raphaël Léris, Étienne de Montetti et Laurent Nunez. À notre sommaire, tumulte, danse, Magnus Enzensberger. Fugitive Pasquerenne de Violaine Huisman et les palimpsestes d'Alexandra Lune.